Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Massimango.
À la une, ce bilan de la coopération du cadre pour le développement durable entre le système des Nations Unies et la RDC en 2025 et compte à son actif plus de 31 000 emplois créés, 110 000 personnes assistées financièrement et plus de 200 000 survivantes des violences basées sur les gens assistés. Tension Yara Kiev et Nyongé, près du lac Edouard Nord Kivu, en cause la saisie par l'ICCN des pirogues des pêcheurs. Il exige de nouvelles immatriculations pour ces embarcations, ce que les pêcheurs ne veulent pas entendre. Comme invité le député national Christian Irachan de Saint-Nicolas, il annonce une interpellation du vice-premier ministre en charge de la défense après des réponses jugées non satisfaisantes à l'Assemblée. Il affirme qu'au moins 879 personnes ont été tuées en Ituri cette année par des groupes armés, principalement des ADF. Madame, Monsieur, bonjour. Commençons par ce bilan. Environ 31 400 emplois créés, 110 600 personnes ont pu avoir accès aux services financiers et plus de 200 000 survivantes des violences basées sur le genre assistées. Ces chiffres résultent de la coopération du cadre pour le développement durable entre le système des Nations Unies et la République démocratique du Congo pour l'année 2025. Ce rapport annuel a été présenté au cours d'une rencontre stratégique tenue jeudi, hier donc à Kinshasa, par les agences tunisiennes et plusieurs ministères congolais. Notez que pour l'année 2025, une somme de 1,37 milliard de dollars américains sera mobilisée par le système des Nations Unies pour accompagner la mise en œuvre du plan national stratégique de développement de la RDC. John Chibouaboua pour d'autres précisions.
La RDC, comme autant d'autres nations, s'appuie sur des partenaires solides pour renforcer ses efforts internes. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le cadre de coopération CCDD-RDC. Le coordonnateur résident des Nations Unies, Bruno Lemarquis, insiste sur la nécessité de consolider une paix durable, socle indispensable de tout développement.
Il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix durable. La situation dans l'Est de la RDC exige que tous les efforts continuent à être faits pour soutenir les processus de paix et de cohésion sociale, à renforcer les approches Nexus Humanitaire Développement Paix.
Le directeur chef des services d'études au ministère du Plan dresse le bilan du CDD pour l'année 2025. Rit Pembele.
31 414 emplois ont été créés en 2025. 110 683 personnes ont accédé aux services financiers. Plus de 201 000 survivantes des violences basées sur le genre ont reçu une assistance.
De son côté, le ministre du Plan, Guilain Yembo, appelle le partenaire à travailler dans un esprit de cohésion et d'harmonisation des interventions afin de répondre favorablement aux attentes de la population.
Et puis cette alerte, la République démocratique du Congo continue de faire face à l'une des crises alimentaires les plus graves et les plus étendues au monde. Le cri d'alarme est lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Dans un communiqué publié mercredi, ces deux organisations mettent en garde contre une aggravation de l'insécurité alimentaire en RDC, pays où ils affirment que des millions de personnes restent piégées dans une crise humanitaire croissante, alors que nos besoins dépassent largement la réponse apportée. Que retenir d'autre de ce document, Jean-Désiré Kanyama?
Dans ce document, la FAO et les PAM sont clairs. L'assistance humanitaire en RDC demeure largement insuffisante face à l'ampleur des besoins. Sans investissement urgent et durable, la crise risque de s'aggraver davantage, avec des conséquences potentiellement irréversibles pour des millions de personnes. Par exemple, en 2026, précise le communiqué, la FAO soutient déjà 55 500 familles touchées par la crise dans les provinces du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika, grâce à une allocation de 10 millions de dollars du Fonds humanitaire pour la RDC. Ce soutien comprend la distribution des semences, d'outils et d'intrants agricoles, ainsi que des transferts monétaires lorsque cela est possible. Toutefois, la FAO a un besoin urgent des 163 millions de dollars supplémentaires pour intensifier ce soutien agricole vital avant que les périodes critiques des semis ne soient manquées. Aujourd'hui, plus de 25,5 millions de personnes, soit près d'un Congolais sur quatre, peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Selon la dernière mise à jour de l'analyse du cadre intégré des classifications de la sécurité alimentaire, IPC, parmi elles, plus de 3,6 millions de personnes se trouvent en situation d'urgence, confrontées à des pénuries alimentaires critiques qui menacent directement leur survie en l'absence d'une assistance urgente. À travers le pays, l'on compte plus de 7,8 millions de personnes déplacées internes, dont beaucoup ont perdu leur logement, leur champ, leur bétail et leur source de revenus.
La gestion de Transacadémia, de nouveau sous le feu des critiques à l'Assemblée nationale, auditionnée mercredi devant les députés nationaux, le directeur général de cette entreprise publique de transport étudiantin, Georges Ongelo, n'a pas convaincu la représentation nationale sur les accusations liées notamment aux arriérés de salaire, aux difficultés de fonctionnement de la société et aux plaintes des usagers. Déjà entendu vendredi dernier, le DG de Transacadémia avait sollicité un délai de 48 heures pour préparer ses réponses, mais face à des explications jugées insuffisantes, le député André Mouchongo Machara, auteur de la question orale avec débat, a décidé de transformer son initiative en interpellation. Il accorde ainsi 48 heures aux responsables de l'entreprise pour démissionner. Kassam Zati, notre permanent au Parlement, nous explique ce qu'il en est.
L'Assemblée nationale a consacré une large partie de sa séance plénière de ce mercredi à l'examen de la gestion des Transacadémia, entreprise publique mise en place pour faciliter le transport des étudiants. Au centre des préoccupations soulevées par les députés, les arriérés des salaires des agents, les difficultés de fonctionnement de l'entreprise, l'insuffisance des bus dans plusieurs provinces, le manque de ponctualité dans les dessertes urbaines, ainsi que les nombreuses plaintes des usagers. Pour justifier cette situation, Georges Ongelo a évoqué principalement des difficultés financières et plusieurs contraintes internes auxquelles l'entreprise fait face. Le directeur général a tenté d'expliquer que les problèmes enregistrés ne relèvent pas d'une mauvaise gestion, mais d'un manque de ressources pour assurer le bon fonctionnement de la société. Des explications qui n'ont toutefois pas convaincu l'auteur de la démarche parlementaire. L'élu de Chicapa a alors décidé de transformer sa question orale avec débat en interpellation, une procédure parlementaire plus contraignante prévue par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bojisangara, a pour sa part rappelé la nécessité du respect strict des procédures parlementaires avant d'inviter le député auteur de la démarche à déposer formellement son interpellation auprès du bureau de la Chambre basse.
Suite à la menace proférée par l'entreprise zambienne d'électricité ZESCO à la Société nationale d'électricité SNEL, afin que cette dernière honore ses engagements, dans une correspondance du 11 mai dernier, ZESCO rappelle que l'accord d'approvisionnement en électricité est arrivé à échéance depuis décembre 2018 et la SNEL n'a pas honoré les factures antérieures de consommation d'énergie électrique. Face à cette éventuelle coupure qui risque de priver les territoires de Pueto, Kasenga et Sakania, dans la province du Haut-Katanga en électricité, le coordonnateur de la société civile du Congo dans la commune de Mokambo, territoire de Sakania, s'implique. Jean Olondo craint justement que toutes ces entités ne soient plongées dans le noir. Il en appelle à l'implication des autorités. Suivez ce propos recueilli par Paulin Mounanga.
Ce territoire-là dépend en matière de fourniture de courant électrique de la Zambie. La Zambie va interrompre cette fourniture comme cause le non-respect des engagements de ne pas honorer les factures antérieures. Il y a à peu près 6 mois passés, la Zambie avait interrompu complètement la fourniture de ces courants dans les 3 territoires-là. Le gouvernement congolais avait dit qu'il devrait acheter le groupe en attendant pour les 3 territoires. Donc on a acheté, mais les groupes qu'on avait achetés, il y avait un coût terrible pour l'achat des carburants. C'est alors qu'on a arrêté cette opération et on a envoyé 3 députés de ces 3 territoires au niveau de la Zambie pour négocier à ce que la Zambie puisse remettre les courants dans ces territoires-là. Alors après discussion, la Zambie avait donné son feu vert pour remettre les courants, tout en donnant l'échéance pour que la SNEL au niveau du Congo puisse chercher l'argent pour honorer les factures antérieures. Alors nous, il y a une crainte. Lorsque le courant va partir, il y a insécurité au niveau de la frontière.
Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des responsables de la SNEL. Tension hier matin à Kiavinyonge, une entité lacustre située à plus de 100 km de Beni, près du lac Édouard, en cause la saisie par l'ICCN des pirogues de pêcheurs. L'Institut congolais pour la conservation de la nature exige de nouvelles immatriculations pour ces embarcations. Pour la société civile locale, les autorités compétentes doivent s'impliquer dans ce conflit qui perdure. Delphin Malekani, président de la société civile de Kiavinyonge, explique la situation au téléphone de Marc Marofimbo.
Il y a des propos de certaines sociétés de l'ICCN qui, si du moins les pêcheurs de Kiavinyonge ne veulent pas que leurs pirogues soient plaquées, on les interdit de ne plus fréquenter les eaux de Kagezi, c'est dans le lac Édouard, les eaux de Vermoussin, d'Aver Kisaka, de rester seulement dans un endroit qui est donc aux côtés de Kiavinyonge. Donc les lacs sont déjà divisés, ce n'est pas un dossier à minimiser, il faut qu'il y ait vraiment une solution durable. Puisque c'est assez quand même. Nous demandons à tout le monde encore une fois d'accompagner les pêcheurs comme les Kiavinyonge, ces villages où la pêche prime. Quelqu'un ne peut pas se prétendre d'être habitat de Kavinyong, sans que sa main ne puisse pas toucher directement la pêche. Les autorités nationales, l'autorité provinciale, le gouverneur de province puissent écouter encore une fois notre voix d'indignation concernant cette barbarie qu'est fort certains éléments de l'ICCN et certains dirigeants de la COPV.
Aucune réaction jusque-là de la part de l'ICCN à ce sujet, malgré nos tentatives. Pendant ce temps, le chef du village de Kavinyong qui appelle la population au calme et demande la restitution de leurs pirogues aux pêcheurs. Cap sur l'Itourie, la MONUSCO y renforce les mécanismes communautaires de protection des civils dans les territoires de Mambasa et de Djougou face à l'activisme des groupes armés. C'est dans ce cadre que des dizaines de leaders communautaires et chefs coutumiers ont clôturé mercredi une formation notamment à Mambasa Centre ainsi qu'à Jina et Risasi dans Djougou. Les participants ont notamment déploré la faible collaboration entre les membres des comités locaux de protection et la population, une situation qui profite aux groupes armés. Ils ont pris un nouvel engagement en vue de restaurer une paix durable dans ces entités. Isaac Raymond.
Dans les territoires de Mambasa où les ADF sont très actifs depuis le mois de mars dernier, 40 leaders locaux ont suivi pendant 2 jours une formation à la gestion, vérification et au partage rapide des alertes pour la protection des civils. Il a également été question du rôle et des responsabilités des comités locaux de protection. L'objectif de cette démarche initiée par la MONUSCO et l'inspection provinciale de la territoriale est de permettre une intervention rapide des forces de sécurité afin de déjouer les menaces des groupes armés, en particulier des ADF. Dans les territoires de Djougou cette fois, plus précisément dans les localités de Jina et Risasi, des leaders d'opinion dont 9 femmes ont également été formés au mécanisme communautaire de protection. À cette occasion, ils ont actualisé le plan local de protection en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans la zone. Tous les participants des 2 entités ont salué cette initiative de la mission onusienne. Ils se sont engagés à s'impliquer activement dans les mécanismes de protection pour renforcer leur propre sécurité. Signalons que les dernières attaques des groupes armés ont fait des dizaines de morts dans les territoires de Djougou et plus de 130 autres victimes dans celui de Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Comment améliorer la qualité des enseignements à l'école primaire? Des administrateurs chargés de mener des enquêtes sur l'évaluation des acquis scolaires dans l'enseignement primaire étaient en formation hier jeudi pour répondre justement à toutes ces préoccupations à Bandundouville. Cette session a été organisée par la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires avec l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation. Le but, renforcer les capacités des enquêteurs appelés à évaluer les acquis scolaires dans des écoles primaires ciblées. Écoutez à ce sujet le directeur provincial de l'éducation nationale Nouvelle Citoyenneté à Kouilou 1, Hervé Mungeta, est au micro de Jean-Claude Tangamo de la radio communautaire de Bandundu.
C'est une grande activité qui est dans la réforme du sous-secteur. Elle vise la qualité de l'éducation. On va enquêter sur les acquis des élèves dans des matières comme la mathématique et puis la lecture. C'est ce qui est très important. C'est que c'est une contre-expertise. Au lieu de se limiter aux proclamations que les écoles font, et nous aurons maintenant encore une valeur ajoutée de voir qu'est-ce que cette cellule va retrouver dans l'exécution des diverses matières que les enfants ont apprises pour voir quel niveau, pour voir qu'est-ce qui est à performer, pour voir qu'est-ce qui est à corriger ou encore à renforcer. Donc c'est ce qui est très important. C'est une cellule indépendante qui travaille sur les évaluations des acquis scolaires. Ce qui va changer, il y aura un rapport pas seulement aux élèves mais aux enseignants. Vous avez un bulletin de performance. Vous allez voir si les enfants acquisent une faiblesse, on calcule ou on lecture. L'enseignant doit ajuster les tirs. C'est ça, c'est très important.
Culture, avant de terminer ce journal en beauté, Kinshasa accueille depuis le 13 jusqu'au demain à samedi la 40e édition d'un festival théâtral dédié aux enfants et aux jeunes. Il s'agit de Journée congolaise du théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, Joukotège, un festival organisé pour sa 40e édition par la compagnie Théâtre des Intrigants, une troupe qui existe depuis 44 ans. Les spectacles de théâtre des troupes professionnelles et scolaires sont livrés depuis mercredi dans plusieurs sites, entre autres le centre culturel Boboto ici à Kinshasa, le centre culturel congolais Le Zoo à la Gombe, le centre d'initiation artistique pour la jeunesse et dans plusieurs écoles de la capitale. Le directeur exécutif de la compagnie Théâtre des Intrigants, Valentin Mitendo, se réjouit de la tenue de cet événement qui familiarise les jeunes et les plus petits aux réalités du monde du théâtre, mais il déplore cependant le manque de soutien du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. On écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
C'est une élution qui me paraît un peu spéciale parce qu'elle tombe dans des périodes un peu difficiles avec les transports dans la ville et les embouteillages. Mais je suis très étonné de constater que, comme d'habitude, les enfants sont là. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je peux en dire aux autorités? Je crois qu'ils doivent nous ouvrir l'œil et le bon. Parce qu'au bout de 40 ans d'exercice, de travail et de présentation de Jokotel, je crois qu'ils ont une idée sur les gens de personnes qui sont en train de se battre. Je vous donne un exemple. J'ai à côté de moi Michel, il vient de Suisse. Il est parmi les partenaires de Jokotel. Il y a les écoles, il y a la salle du jeu, il y a la ville de Kinshasa. Mais au niveau du ministère, nous ne sentons rien. Même l'histoire qui concerne à venir dire nous ouvrons les Jokotel, on ne le voit pas.
Actualité internationale.
Ce vendredi, la Chine a réclamé un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la couverture du détroit d'Ormuz dès que possible. C'est en marge du sommet entre les présidents chinois et américains à Pékin.
L'invité.
Au moins 879 personnes tuées en Ituri cette année par des groupes armés, principalement les ADF. Des chiffres avancés à l'Assemblée nationale par le député national indépendant Christian Iratchan de Saint-Nicolas. L'élu de Bounia annonce une interpellation du vice-premier ministre en charge de la défense et juge insuffisante les réponses apportées à sa question écrite sur la situation sécuritaire dans cette province. Christian Iratchan affirme également avoir saisi le président français ainsi que le gouvernement allemand pour plaider en faveur de renforcement des moyens de la MONUSCO et d'enquêtes indépendantes sur les tueries des civils en Ituri. Ils sont chrétiens ici avec Ras Hamzati.
Christian Iratchan, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, vous affirmez qu'il y a près de 879 morts en Ituri depuis les débuts de l'année 2026. D'où proviennent ces chiffres?
Je commence par réitérer mes condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées. Vous savez, obtenir les chiffres, c'est pas facile en Ituri. D'autant plus que nous avons des sources religieuses. Donc, ce sont les églises parfois qui nous donnent les chiffres. Nous avons la société civile qui nous donne des chiffres. Nous avons les acteurs politiques crédibles qui nous donnent les chiffres. Et nous avons des sources indépendantes, étatiques, comme des chefs de groupement, des chefs de localité qui sont présents sur les lieux, qui nous avoir ces chiffres-là. Et en plus de cela, maintenant, il y a la communauté humanitaire aussi qui avance des chiffres. Mais je vous dis que ce n'est pas facile de pouvoir obtenir, parce que même ces chiffres, nous pensons que ce n'est pas les chiffres qu'il fallait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent et on n'a pas accès à ces zones-là.
Et les groupes principaux, ce sont les ADF?
Si je parle de l'Ituri, il y a les ADF, mais ici, je me focalise sur les territoires d'Enjougou, parce que je travaille beaucoup sur les dossiers des ADF aussi, parce qu'il y a des initiatives parlementaires sur lesquels j'ai donné des précisions par rapport à tous ceux-là qui sont exécutés par les ADF. Mais ici, il s'agit des territoires d'Enjougou où on est face à une situation extrêmement délicate. C'est là où je demande toujours des enquêtes. Et moi, je ne voudrais pas citer les noms de ces groupes. Je voudrais que les enquêtes, parce que nous avons obtenu quand même une commission d'enquête au niveau du Parlement, mais aussi nous avons obtenu une séance à huis clos où nous allons débattre de cela. Et aussi, le président ougandais, Yoweri Museveni, il a écrit au chef de l'État congolais à propos de ces mêmes massacres et merci pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le président de la République, qui a instruit maintenant les ministres, les VPM de la Défense et de l'Intérieur à pouvoir diligenter des enquêtes à ces propos-là. Et ça nous donnera donc des bonnes réponses parce que je ne voudrais pas être pressé pour citer des noms ici, mais je voudrais que ces enquêtes aboutissent et qu'on dise les noms. Et donc, c'est quelque chose qui nous interpelle et qui fait en sorte que nous ne restons pas sensibles. Donc, c'est pour vous dire que ces chiffres, c'est même moins que la réalité sur le terrain. Plus de 879 entre janvier et mai 2026 aujourd'hui. Seulement pour la partie ADF, c'est plus de 300 personnes qui sont tuées. Alors, c'est une situation vraiment qui devrait alerter le monde parce que ce sont des humains qui sont en train de mourir.
Alors, vous avez adressé une question écrite au vice-premier ministre, ministre de la Défense, par rapport à la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Quelle a été la suite?
Nous avons adressé en date des 30 janvier 2026, une question écrite au ministre de la Défense parce qu'il y avait, souvenez-vous, des massacres dans les centres de commandes. Et nous, on n'a pas compris. Commandes, c'est une grande agglomération. Comment les ADF se sont infiltrés jusqu'à venir tuer dans commandes, mais aussi emporter les biens paisiblement et ils ont ramassé une bonne partie des jeunes et des femmes. Ils les ont amenés en Brousse. Où étaient nos forces de sécurité à ce moment-là? C'est comme ça que j'ai initié une question pour qu'on comprenne quelles sont les dispositions que nos forces de sécurité sont en train de prendre pour pouvoir limiter les dégâts, donc pour pouvoir neutraliser les ADF, et quelles sont les dispositions pour protéger la population face à cela. Le ministre a répondu au mois de mars en nous donnant des garanties dans sa lettre que tout est mis en œuvre avec la coalition, les opérations conjointes UPDF, l'armée ougandaise et l'armée congolaise pour qu'on neutralise ces mers de troubles sur place. Mais il y a eu encore des massacres qui atteignent même 200 personnes. Et ce qui est grave, aujourd'hui les terroristes ADF se déplacent à l'intérieur même de la RDC. Avant, ils étaient plus vers la frontière parce qu'ils ont l'origine ougandaise. Et maintenant, ils vont plus à l'intérieur de notre pays et ça cause maintenant une peur permanente, une crainte parmi la population civile et il y a des déplacements partout.
Et vous avez transformé cette question écrite en interpellation?
Oui, parce que j'ai posé 6 questions au VPM, ministre de la Défense, mais en fait, toutes les 6 questions qu'il a répondu ne nous ont pas convaincus. Et la conséquence, vous avez vu, les gens continuent de mourir même après la réponse qu'il a posée. Et donc, dans notre règlement intérieur, à l'article 184, si vous pensez que la réponse ou les réponses que le gouvernement vous a données ne vous convainc pas, vous pouvez transformer ça à l'interpellation qui est une procédure sanctionnable. Ça veut dire qu'avec la question écrite, vous ne pouvez pas sanctionner le gouvernement. Mais quand ça devient une interpellation, vous pouvez sanctionner. Mais il y a une condition, on doit d'abord délibérer à huis clos la demande de l'interpellation avant que cela aboutisse.
Gracien Iradjan de Saint-Nicolas, je vous remercie.
Merci à vous autant.
Gracien Iradjan de Saint-Nicolas, député national indépendant élu de Bounia. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Lévin Mwinga, mis en onde par Pierre Diessinois. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée.